Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'octave de ce dimanche de Pâques, c'est aujourd'hui. Et durant ces 40 jours, notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à différentes reprises, aux apôtres, aux disciples, aux saintes femmes, sans bien sûr oublier l'apparition en premier lieu à Notre-Dame. Mais les évangiles sont entièrement muets sur cette apparition à sa bienheureuse mère. Pourtant, ne pas douter un seul instant que notre Seigneur soit apparu en premier lieu à Notre-Dame, parce qu'elle a eu la foi. Sa foi n'a pas été ternie, voilée, durant aucun moment de la vie cachée, publique et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, notre Seigneur Jésus-Christ veut voir dans les âmes de ses fidèles la foi. D'ailleurs, je me répète, fidèle signifie foi, fidèle, la foi. Et c'est d'ailleurs ce que notre Seigneur Jésus-Christ va, avec beaucoup de délicatesse, reprocher à l'apôtre Thomas, Thomas l'incrédule. Jésus lui dit, Thomas, ne sois plus incrédule, mais fidèle. Et la foi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin de cet évangile, ce bel évangile en Saint Jean aujourd'hui, dira non seulement à Thomas, mais pour nous tous, croyants au fil des siècles jusqu'à la fin du monde, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà une belle béatitude que notre Seigneur Jésus-Christ adresse à tous ceux qui veulent s'approcher de lui, la foi. C'est la première question que l'Église va poser aux catéchumènes. Que venez-vous faire ici? Que demandez-vous? La foi. Et la foi qui procure la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vie éternelle. Notons dans cet évangile, selon saint Jean, dans chapitre 20, aujourd'hui, plusieurs choses. Bien sûr, l'incrédulité de Thomas, sa foi ensuite, il a touché notre Seigneur Jésus-Christ, mettre ses doigts, son doigt, dans les plaies de Jésus, dans son côté, dans ses mains, dans ses pieds. Notre Seigneur Jésus-Christ avait montré déjà ses plaies aux apôtres le dimanche de Pâques, car aujourd'hui il y a comme deux apparitions. La première, c'est aux apôtres, Thomas n'étant pas là, le dimanche de Pâques, et puis le dimanche suivant, le dimanche aujourd'hui, le dimanche in albis, l'octave de Pâques. Donc il y a comme deux apparitions dans un seul évangile. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, va donner cette paix, pax vobis. Il rentre dans le cénacle où sont les apôtres rassemblés, les portes bien fermées, bien calfeutrées, propter mitum iudeorum, ils ont peur. Ils craignent énormément les Juifs qui, bien sûr, ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ et qui peuvent facilement les rattraper. Ils peuvent même les crucifier, leur faire un procès unique, comme pour notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, les apôtres sont très craintifs. Ils ont peur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va dissiper leurs craintes, bien légitimes, par le don de la paix. Et plus tard, on le verra, après la Pentecôte, les apôtres non seulement auront la paix dans leur âme, mais la joie. Et même, ils souffriront beaucoup d'avanie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront heureux de souffrir quelque chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quel exemple pour nous. Si on a à souffrir quelque chose, eh bien c'est la joie qui est la conséquence et une grande paix. On le voit avec tous les martyrs de toute la chrétienté. La paix intérieure, qui parfois déroute jusqu'à convertir les bourreaux, et la joie des martyrs, et même parfois beaucoup d'humour, comme Saint Laurent qui dira à son bourreau, tu peux retourner parce que ce côté-ci est grillé. L'humour des saints, l'humour des martyrs. C'était étonnant. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans leur âme. Notons un point très particulier dans cet évangile. à deux reprises, donc notre Seigneur Jésus-Christ donne la paix, Pax Vobis, et Jésus-Christ, puisqu'on a vu que tout était bien fermé, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas frapper à la porte, comme plus tard. Saint Pierre, qui est délivré de la prison, on le voit dans les Actes des Apôtres, va arriver dans la maison où se trouvent les chrétiens et frappe à la porte. Et à plusieurs reprises. Et puis il y avait une brave servante qui ouvre la porte, qui l'entrouvre, et qui dit, qui la referme aussitôt en disant aux apôtres, aux disciples, c'est Pierre qui est là, tandis que Pierre est toujours à la porte. Pierre n'est pas rentré. Notre Seigneur Jésus-Christ ne frappe pas à la porte. Il rentre, toutes les portes étant fermées. Écoutez Saint Grégoire le Grand qui commente l'évangile d'aujourd'hui. C'est très beau. C'est plein de délicatesse et plein d'enseignements sur notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie. Écoutez. En entendant lire ce passage de l'évangile, la première difficulté qui se présente à l'esprit est la suivante, dit-il. Comment le corps du Seigneur était-il un vrai corps après la résurrection, puisqu'il a pu, toute porte close, ianuis clausis, s'introduire auprès des disciples? Mais il faut le remarquer, les œuvres divines ne seraient plus merveilleuses si la raison les pouvait comprendre. Ce n'est plus un mystère si on comprend les mystères. Il faut remarquer, les œuvres divines ne seraient plus merveilleuses si la raison les pouvait comprendre. Et la foi n'a plus de mérite si la raison humaine lui fournit ses preuves. Comme dira saint Paul, la foi, c'est l'argument des choses qu'on ne voit pas. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Fides argumentum rerum non apparentium. Or, ces œuvres même de notre Rédempteur, qui d'elles-mêmes sont absolument incompréhensibles, il en faut juger d'après ses autres œuvres, afin que ses actions miraculeuses soient accréditées par d'autres plus miraculeuses encore. Donc déjà, premier miracle, c'est que Jésus rentre toute porte étant fermée, sans les briser. Écoutez la suite, qui est encore bien plus belle. Ça, c'est matériel, que quelqu'un rentre à travers une porte sans l'ouvrir, l'action d'ouvrir la porte, et sans la briser. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Il y a encore plus beau, dit saint Grégoire le Grand. En effet, ce corps du Seigneur qui s'introduisit auprès des disciples, toute porte close, ianuis clausis, c'est celui qui, à sa naissance, sortant du sein clos de la Vierge, se rendit visible aux yeux des hommes. Dès lors, quoi d'étonnant si, étant ressuscité pour vivre à jamais, il franchit les portes closes, puisque venant au monde pour mourir, il était sorti sans l'ouvrir du sein de la Vierge. La conception de notre Seigneur Jésus-Christ, je fais une parenthèse, la conception de notre Seigneur Jésus-Christ est exceptionnelle. Il n'y a pas de principe humain que Notre-Dame. Il est conçu du Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit. Il n'y a pas de principe masculin dans la venue au monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre-Dame est le seul principe, humainement parlant, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Des auteurs, d'ailleurs, ont bien signifié que notre Seigneur Jésus-Christ, humainement, corporellement, devait ressembler totalement à Notre-Dame. Un calque de Notre-Dame. Un calque. Des enfants, parfois, ont dit « Oh, c'est tout son père ou tout sa mère !» De notre Seigneur Jésus-Christ, on ne pouvait pas dire « C'est tout son père !» Saint Joseph est merveilleux, mais le pauvre homme, il est étranger. Le saint homme est étranger à cette venue au monde de notre Seigneur Jésus-Christ. De Jésus-Christ, on devait dire uniquement « Oh, en voyant Jésus-Christ, c'est tout sa mère !» Effectivement, humainement parlant, dans sa nature humaine. C'est tout sa mère. Il tient tout de sa mère. Et bien donc, à Noël, notre Seigneur Jésus-Christ va faire comme pour Pâques. Cependant, ce n'est pas la même chose. À Pâques, il traverse les portes sans les ouvrir, sans les briser. À Noël, il est venu au monde sans briser Notre-Dame, en quelque sorte. Ianuis clausis. notre âme est restée intacte. C'est une essence extraordinaire, unique. Unique. Il n'y en a pas deux comme ça. À part Adam, qui est né adulte. Notre Seigneur Jésus-Christ, né enfant, sans briser le sein de Notre-Dame. C'est ce que dit Saint Grégoire. Et la liturgie aussi, à Noël, dit la même chose. Comme c'est beau, comme c'est beau. Les mystères se rejoignent, voyez-vous. Adorons notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, ayant une grande dévotion aussi pour Notre-Dame. Quelle délicatesse de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à cette très sainte mère. Et puis, 33 ans plus tard, quelle délicatesse aussi de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à ses apôtres. Il n'a pas brisé les portes, les vitres de la maison. On dit, bon, c'est bien, comme ça le serrurier n'a pas eu à venir. Mais c'est bien plus que cela. C'est une délicatesse de charité. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un seul mystère. Il ne brise rien, il y avait beaucoup de délicatesse. Quel homme, cet homme Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, autre grand détail de cet évangile, le jour de Pâques, il a fait toucher à ses apôtres les plaies, ses propres plaies. En effet, les apôtres, quand ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ, sont effrayés. Est-ce notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas un fantôme? On peut imaginez la frayeur des disciples. Notre Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, montrera qu'il est vraiment homme, mais un homme qui a souffert. Il est glorieux, incorruptible à présent. Cependant, il montre ses plaies. Il mangera avec eux, bien qu'il n'ait pas besoin de manger. C'est encore glorieux. Mais pour montrer que ce n'était pas un fantôme, c'est bien lui, bien Jésus de Nazareth, le crucifié, comme les anges le diront aux saintes femmes le petit matin de Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ a cette grande délicatesse de se montrer tel qu'il est, glorieux, mais avec ses plaies. Et 8 jours plus tard, c'est à Thomas l'apôtre qu'il dira, alors que Thomas enfin est venu avec les apôtres, ils ont dû le supplier, mais viens avec nous. On a vu notre Seigneur Jésus-Christ, mais Thomas a donné des conditions extraordinaires. Il leur a dit, si je ne vois pas la marque de ses plaies, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, non credam, je ne croirai point. Je ne croirai point. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, comme Thomas est ici, présent enfin dans le cénacle, il va avoir une grande délicatesse pour l'apôtre Thomas. Il appelle Thomas, « Viens Thomas, mets tes mains, mets ton doigt dans mon côté, dans mes mains, dans mes pieds. » Et Thomas, sans doute il l'a fait, bien évidemment, il a obéi à notre Seigneur Jésus-Christ, mais retenons surtout de Thomas cet acte de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Le pape Saint Pie X a accordé l'indulgence 300 jours, me semble-t-il. Vous verrez dans vos missels, les anciens missels, l'indulgence qu'il a accordée quand les fidèles pieusement récitent cette invocation à la consécration, aux deux consécrations, mon Seigneur et mon Dieu. Un acte de foi. Thomas a vu notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne le voyons pas. Nous voyons bien dans les mains du prêtre l'hostie, puis le calice. Mais Thomas, comme les apôtres, ont vu notre Seigneur Jésus-Christ réellement. Pour nous, la foi est encore bien plus importante. Et nous disons les mêmes paroles que Thomas l'apôtre, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, comme je le disais, notre Seigneur Jésus-Christ va adresser à Thomas, cette belle béatitude, celle de la foi. Et je lis encore le Saint Grégoire le Grand, pape. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Il commente ce petit verset, cette béatitude de la foi, car dans cette phrase, nous sommes particulièrement désignés. Nous qui saisissons par l'esprit, celui que n'ont pas vu nos yeux de chair. C'est nous qui sommes désignés, mais à condition que nos œuvres soient conformes à notre foi. Nos œuvres conformes à notre foi. Les œuvres, c'est la charité. Il ne suffit pas de croire. Il faut que nos œuvres correspondent à notre foi, notre charité à notre foi. Car celui, il continue, car celui-là croit véritablement, qui fait passer sa foi dans ses actions. Autrement, c'est des mots. Comme dit le pape. Au contraire, ainsi, ceux qui font n'ont de fidèles que le nom, saint Paul dit qu'ils font de profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. Et l'apôtre saint Jacques, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est la charité que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mettre dans nos âmes avec sa venue ici-bas, dans sa vie cachée, dans sa vie douloureuse, dans sa vie glorieuse. C'est la charité qui est la plus haute de toutes les vertus. C'est le fait, le dôme qui couronne toutes les vertus chrétiennes, la charité. Et saint Jacques est formel. La foi sans les œuvres est morte. Voilà, mes très chers frères, conclut saint Grégoire le Grand. Voilà comment parlaient les papes au Ve siècle. Comme nous sommes loin de cette prédication. Peut-être que vous avez écouté l'homélie hier matin du cardinal Ré, le doyen du Sacré Collège. J'ai écouté ce serment. Dans ce serment, il a résumé la vie de François, mais je n'ai pas entendu parler de la foi. J'ai entendu parler, oui, effectivement, des œuvres, Lampedusa, les naufragés, les immigrés, le prochain extrêmement loin qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Non, la charité, c'est le prochain le plus proche. Il y a un ordre dans la charité. Aimer le prochain qu'on ne voit jamais, qu'on n'a jamais entendu parler, dont on n'a jamais entendu parler, ce n'est pas la charité, cela. Les papes parlaient autrement, voyez-vous. Prions pour que nous ayons un jour un bon, un saint, un vrai pape, digne de ce nom. C'était une petite parenthèse, ce n'était pas dans le texte de saint Grégoire le Grand. Voilà, mes très chers frères, conclut-il, ce qu'il vous faut redouter intensément. Voilà ce qui doit être le souci de votre âme, la charité, la foi et la charité. Nous célébrons maintenant les solennités pascales, mais il nous faut vivre de façon à mériter d'être admis aux fêtes éternelles, la vie éternelle. La deuxième question que pose le prêtre au baptême, que demandez-vous de la foi ? Que pour que la foi, la vie éternelle. Elle passe toutes ces fêtes que nous célébrons dans le temps. Vous qui assistez à ces solennités, prenez garde de n'être pas exclu de l'éternelle solennité. À quoi vous servirez d'assister aux fêtes des hommes si vous veniez à manquer aux fêtes des anges? La solennité présente n'est que l'ombre de la solennité future. L'ombre, le ciel, ce n'est plus l'ombre, c'est la réalité. Nous ne la fêtons annuellement qu'afin d'arriver à celle qui n'est pas annuelle, mais continuelle. Lorsque nous la célébrons en son temps, elle ramène en notre mémoire le désir de celle-ci. Ainsi que par la répétition des réjouissances du temps, notre âme s'échauffe et s'enflamme de l'amour des joies de l'éternité, afin de goûter dans la patrie, c'est le ciel, avec la réalité de l'allégresse, ce qu'elle médite sur le chemin dans l'ombre de la joie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.